7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, comment bien apprendre à conduire ? Dans bon nombre de pays, les auto-écoles et leurs réglementations s'apparentent à une jungle, prix élevé, délai d'attente pour passer le permis ou même corruption. En France, avec plus d'un million de candidats chaque année, le permis est l'examen le plus important en nombre de candidats. Mais il faut aussi rappeler que dans ce même pays, la France, plus de 770 000 personnes conduiraient sans permis de conduire. Et avec beaucoup de crises de nerfs en amont. Alors chez vous, les voisins, les voisines, dites-nous quelles sont les galères du permis de conduire, sachant qu'il en va de votre sécurité et de celle des autres sur la route. Vos témoignages nous intéressent. Appelez-nous surtout dès maintenant sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités qui sont en liaison avec nous. Bonjour Stéphane Massard.
Bonjour.
Vous êtes professeur indépendant d'auto-école, vous êtes en liaison avec nous d'Angers, dans l'ouest de la France. 35 ans de métier, vous avez tout vu ou presque au volant.
Vous allez un peu loin, mais oui, c'est bien Angers.
Julien Danombunga est également en ligne avec nous. Bonjour Julien Bunga.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous vos auditeurs.
Vous êtes fondateur et président de l'association CISAL, c'est une ONG de prévention routière au Cameroun qui se préoccupe de l'apprentissage de la conduite également, officiellement aux alentours de 1600 morts par an, c'est ça, hein, au Cameroun ?
À peu près, nous œuvrons vraiment dans la sensibilisation de manière générale sur le respect du civisme sur la route, notamment le code de la route. Mmh. Effectivement, l'apprentissage de la conduite est fondamental pour notre association.
Alors bien sûr, hein, la mortalité sur les routes, ça dépend aussi de la qualité des routes et pas seulement de la qualité du conducteur. Mais tout de même, nous serons aussi en ligne avec Fabi Jaglar, professeur d'auto-école à Brazzaville, au Congo. Et puis en fin d'émission, la chronique du psychologue Ibrahima Girou, comme chaque semaine à Dakar. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Quand les professionnels de l'enfance se trompent de diagnostic sur les troubles scolaires, une chronique à réécouter en podcast avec tous les autres conseils pour les parents. Voilà, vous pouvez nous appeler pour parler du permis de conduire au 33 7 64 45 51 41. Et je vous lis quelques messages. Un message de Djeneba qui est à Ouagadougou, Burkina. Les gens passent leur permis uniquement pour conduire une voiture et non pour les motos à deux roues. Alors j'ai été surprise de ce message. Normalement, il faut bien passer le permis A pour les deux roues. Aliou est à Cotonou, au Bénin. Il nous dit qu'il y a moins de corruption possible des inspecteurs qui font passer le permis de conduire depuis la réforme du permis de conduire. Nikez est à Bandaka, au nord-est de la RDC. Et nous dit qu'au Congo, le permis n'est plus délivré depuis un certain temps. Nous ne savons pas quand ce document indispensable sera mis à la disposition du public. Vraiment, c'est un sérieux problème dans mon pays. N'importe qui prend la route avec des conséquences dramatiques comme les décès. Et pour ma part, je conduis une moto avec un permis A et une voiture avec un permis B. Ça, c'est bien conforme. Le permis biométrique, d'après nos recherches, a été en effet annoncé en 2017 en RDC et serait peut-être à l'origine de la pénurie de documents. En tout cas, vous êtes nombreux à nous signaler les problèmes du permis de conduire au Congo. Et puis écoutez aussi le message de Cécilia, apprentie conductrice au Gabon.
Oui, bonjour. Ici, les apprentis, quand ils ne connaissent pas conduire, ils mettent derrière la voiture un grand A pour dire que ce sont des apprentis. Mais malgré qu'ils disent qu'ils sont des apprentis, ils sont parfois coincés en route par des connaisseurs, tout dans les grands carrefours, le tournage des voitures. Ce n'est pas vraiment facile pour les apprentis. C'est surtout le problème d'apprentis. Et il y a vraiment d'autres qui ont juré qu'ils ne veulent pas conduire. Moi, par exemple, je ne conduis pas. Je n'ai pas envie de conduire parce que je me sens nerveuse au volant. Comment vaincre ma peur sur la conduite? Car à Libreville, la circulation est très dangereuse et la conduite est très dangereuse au niveau du rond-point de Rio et dans des grands ronds-points pour les nouveaux conducteurs.
Oui, toutes les villes hein, ont leur bête noire pour les apprentis conducteurs. Stéphane Massard, que pouvez-vous répondre en tant que enseignant de conduite, quand on a ce blocage, parce qu'il y a des gens qui vont renoncer à l'apprentissage de la conduite, parce qu'à un moment donné, la peur a submergé finalement la capacité à apprendre à conduire.
Tout à fait, pour passer le cap, il y a la peur de conduire, et après il y a aussi la peur de l'examen.
Parlez bien dans le téléphone, hein, s'il vous plaît, Stéphane Massard.
D'accord. Voilà. Je disais, il y a la peur de conduire et il y a la peur de l'examen.
Oui.
Deux choses bien différentes. Maintenant, il n'y a que l'expérience qui fait. Maintenant, en auto-école, l'expérience, c'est prendre des heures et donc il faut avoir le budget conséquent.
Tout à fait.
Petit rappel, vous enseignez en tant que professeur de conduite dans une voiture à double commande. Hein. C'est-à-dire que vous avez les pédales du frein, vous avez un rétroviseur spécial, mais vous n'avez pas le volant.
Non, mais on n'a pas besoin du volant, on a des bras assez longs.
C'est-à-dire, forcément, on a envie de vous demander vos pires frayeurs en 35 ans de métier, Stéphane Massard.
Oh, y en a eu maintenant. Pour moi, c'est toujours un manque d'anticipation de ma part. Mais pire frayeur, ça a été des accidents.
On a des accidents.
Il y en a eu, bien sûr.
On a des accidents quand on est moniteur d'auto-école.
Rien que sur le coin, malheureusement, le mois dernier, on a perdu un collègue.
Ah oui. À cause de l'apprenti conducteur.
On ne sait pas. On ne sait pas. Vu l'accident, ça m'étonnerait. Et puis c'était quelqu'un qui avait de l'expérience, parce qu'il y a aussi des débutants chez les moniteurs, hein, bien sûr. C'est quelqu'un qui avait de l'expérience, qui faisait très bien son travail. Donc ici, c'était en rase campagne. Hein. Moi, je travaille en ville plutôt. Et en rase campagne, et le seul témoin, c'est le conducteur de l'autre voiture qui, lui, n'a rien eu, donc on ne sait pas, quoi.
Aujourd'hui, en France, quels sont les différents types d'auto-écoles ? Comment s'y retrouver pour trouver une formation de qualité ?
Formation de qualité, je dirais, tout dépend du formateur. C'est pas forcément l'auto-école qui fait. Par exemple, moi, je travaille en auto-école, qu'on dirait traditionnelle à la base, et aussi pour une passerelle sur Internet, les nouvelles auto-écoles. Donc, on peut me trouver sur les deux. Et je connais aussi des gens qui font plus du business que de la formation, et ils sont aussi sur les deux. C'est un problème de formateur, je dirais pas sur le plan que les passerelles sont meilleures ou sont pires. Ça dépend tout simplement du formateur.
Mais comment vérifier, par exemple, les taux de réussite à l'examen qui sont affichés par les auto-écoles ?
Alors ça, il y a en théorie, la loi dit qu'on peut demander à la préfecture. Maintenant, la préfecture le fait peu. Sinon, il y a un site qui vaut ce qu'il vaut. Les chiffres sont assez vieux et ne sont pas mis à jour. C'est un site qui s'appelle vroomvroom.fr. Mais c'est moyen. Ça vaut ce que ça vaut.
D'accord.
Sinon, il n'y a pas de contrôle. Les gens affichent des choses, il n'y a pas de contrôle.
Eh bien, vous n'êtes pas là pour nous rassurer. Alors, Stéphane Massard, pour ceux qui se lancent dans l'apprentissage de la conduite, le permis, en fait, c'était jusqu'à il y a peu un peu comme les taxis, un monopole quand même, des prix élevés. L'arrivée des plateformes et les réformes du gouvernement Macron ont contribué un peu à déréguler ce marché. Mais finalement, avec la réforme Macron de 2015, quels effets pour le consommateur, pour celui qui apprend à conduire et qui passe son permis ? Qu'est-ce que vous diriez, Stéphane Massard ?
Y a les deux cas. Les passerelles, c'est vraiment pour quelqu'un qui est connecté, qui arrive à se prendre en main tout seul. Si la personne a besoin d'accompagnement, avec une passerelle, ils peuvent appeler les gens de la passerelle, hein. Il y en a,
donc des plateformes,
il y a trois principales, voilà la plateforme. Oui, normalement c'est le boulot du secrétaire dans une auto-école traditionnelle. Maintenant, je sais que dans la plateforme où je travaille, ils font bien leur travail, ils présentent bien les choses. Et d'ailleurs, ce sont d'anciens secrétaires ou d'anciens moniteurs qui n'ont plus envie de faire de la formation. En auto-école, souvent dans les petites auto-écoles familiales, on va dire. Normalement, il y a l'histoire de la réputation, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils font du bon travail, normalement la personne s'y connaît. Mais des fois, on a besoin de quelqu'un, ils vendaient des baguettes de pain deux semaines avant. Hein, donc, ça, je dirais, ça, c'est une question, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de bon ou mauvais dans ma profession. C'est vraiment suivant la petite entreprise que c'est.
L'examen du code de la route a également été réformé. Hein. On n'a plus de cours de code où on est obligé de se déplacer sur le lieu de l'auto-école. C'est un apprentissage en ligne. C'est plutôt une bonne chose ou pas, selon vous ? en termes de connaissances à l'arrivée ?
Pas trop.
Ah bon ? Pourquoi ?
Pas trop. On est dans une génération qui aime bien faire des tests. On parle de cours de code. En fait, un cours de code n'a jamais été des tests. On passe des tests lorsqu'on a suivi des cours. Et les cours, les gens ne veulent pas trop les suivre. Sur la passerelle où je travaille principalement, il y a des cours de code. Il faut savoir que j'ai demandé, il n'y avait même pas 8% de gens connectés. Les gens font des tests. Et ils font ça un peu, c'est le côté ludique. Ils font ça comme des tests que des QCM qu'on peut trouver sur Internet. Mmh. Et une fois qu'ils ont fait une cinquantaine de tests, ils font « Tiens, je vais passer le code ». Mais en fait, on s'aperçoit en voiture que les gens ne connaissent plus le code. Il n'y a personne pour les reprendre. En fait, ils font des tests. Et quand ils ont fait assez de tests, ils se présentent. Mais c'est assez dramatique en résultat. Mmh. Alors maintenant, il est vrai que c'est pratique de le faire de la maison, mais les gens ne veulent pas consacrer du temps.
Parce que le cours de code en ligne, finalement, il est indispensable selon vous parce qu'il faut expliquer les significations des panneaux, etc. et pas juste montrer pourquoi vous avez bien répondu ou pas.
Enfin, évidemment. Et avant, on achetait un livre de code, on lisait le livre de code. Mmh. On est dans un monde qui ne veut plus lire. Maintenant, on prend les applis et voilà. C'est le côté ludique. Avant, on se prenait la tête à... Moi, je me souviens, quand j'ai passé mon permis, je connaissais le petit bouquin du code. À l'époque, on appelait ça le code Rousseau. Et le code Rousseau, je le connaissais par cœur. Bah, ça m'a servi plus tard pour mon métier, d'ailleurs. Mmh. Aujourd'hui, les gens regardent un peu. Ah, c'était pas la réponse B, c'est la réponse A. Mais ils ne cherchent pas à comprendre la réglementation. Mmh. Et on retrouve beaucoup de gens qui, après, sont surpris... notamment tout ce qui est permis à points, vu qu'il y a peu de questions, ils ne l'apprennent pas. Donc, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent perdre le permis en un claquement de doigts.
Oui.
On le voit en comportement sur la route.
Alors, néanmoins, 85% des jeunes considèrent que le permis est un sésame hein, en France, en particulier pour le premier emploi, quasiment au même degré que le fait de disposer d'un diplôme reconnu. 53% des personnes constatent que l'absence de permis a pu constituer un frein pour décrocher un emploi. C'est particulièrement vrai quand on est hors Île-de-France, hein, forcément, où on est plus dépendant de la voiture parce qu'il y a moins de transports publics. Ce sont des chiffres de l'Institut Montaigne du printemps dernier. En moyenne, aujourd'hui, les candidats réussissent leur permis avec combien d'heures de conduite, Stéphane Massard ?
Ça n'a pas changé. Hein. Ça a toujours été environ 35 heures. C'est une grosse moyenne. Et après, ça dépend de l'expérience des gens. Il est sûr qu'à la campagne, le jeune qui conduit un tracteur depuis qu'il est petit, on ne va pas trop galérer au niveau de la manipulation, notamment du volant, du regard. Alors que en ville, on tombe sur des gens qui n'ont jamais touché une voiture et qui ont des frayeurs de voiture. Mais là, on a aussi à la campagne. Mais donc, on table sur un 35 heures, on dirait 30 heures en automatique, vu qu'on n'a pas le problème de la boîte de vitesse. Mais
officiellement, c'est moins. Les forfaits des voitures automatiques sont beaucoup plus bas hein, en nombre d'heures.
Ah, le forfait, c'est pas une moyenne, c'est un minimum légal. Mais c'est comme si je vous dis, vous allez apprendre le japonais en 20 heures. Je vous souhaite bon courage.
C'est-à-dire que c'est réservé à des jeunes qui, en réalité, ont déjà appris à conduire, comme vous le disiez, par exemple, à la campagne. Plus difficile d'apprendre à conduire quand on a
des
du temps
qui se débrouillent,
en Île-de-France.
Des jeunes qui se débrouillent.
Oui.
On a des jeunes très débrouillards et on a d'autres qui, déjà, il y a la peur. Et il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés.
Qu'est-ce que vous entendez par des jeunes qui se débrouillent pour revenir aux 770 000 personnes qui conduisent sans permis en France ?
Alors, les jeunes qui se débrouillent, je parle de jeunes qui sont actifs. Regardez des jeunes à 17 ans. À 17 ans, il y a des jeunes qui ont déjà plein d'expériences professionnelles, qui vivent. Et puis, il y en a, ils sont jamais sortis de chez eux. Il faut les accompagner. Dans ce cas-là... Je leur dirais, le meilleur accompagnement à la base, c'est l'auto-école traditionnelle, à condition de se renseigner sur l'auto-école traditionnelle.
Et Julien Mbunga, vous, dans quelles circonstances vous avez créé votre association CISAL de prévention routière au Cameroun ? Vous habitez entre le Cameroun et la France ?
Alors, c'est une expérience personnelle, un accident, malheureusement, qui m'a poussé à créer cette association. Surtout que je me suis rendu compte... Hein, que les choses ne s'amélioraient pas du tout, mais alors pas du tout. Mon accident a eu lieu en 2010, et 12 ans après, la situation s'est passablement empirée. Donc, plutôt que de rester les bras croisés avec des amis, on a décidé de monter cette association avec une approche assez singulière qui n'existait pas au Cameroun, la sensibilisation de proximité en fait. Hein. Mmh. On fait quasiment du commercial, du porte-à-porte avec les usagers, en allant chercher à comprendre le pourquoi du comment. Mmh. Pourquoi tu ne mets pas ta ceinture de sécurité, pourquoi tu ne respectes pas le feu rouge, etc. etc. Comprendre réellement ce qui se passe dans la tête de l'usager. Mmh. Et essayer avec des arguments, des photos, des statistiques, de lui montrer les conséquences directes de ses actes qui, s'ils ne sont pas visibles immédiatement, peuvent survenir à tout moment dans sa vie et stopper net sa vie ou changer radicalement sa vie. Et ensuite, nous implorons véritablement un changement de comportement de ces derniers en le laissant partir. Et nous multiplions ainsi ces campagnes de sensibilisation en direction de tous les publics, hein, les usagers, les automobilistes, motocyclistes, piétons, très important. Mais nous allons également dans les écoles primaires et maternelles. Nous allons dans les auto-écoles, les compagnies de voyage, etc., etc. Bref, tout l'écosystème pour que chacun reprenne en fait conscience. En fait, on rappelle les règles du bon sens concernant le code de la route sur lequel, malheureusement, beaucoup de personnes se sont assises avec des conséquences fâcheuses au quotidien.
Alors, c'est du bon sens, mais ça n'est pas que du bon sens, hein, parce que franchement, il faut vraiment l'apprendre par cœur, ce code de la route. Hein, c'est ça qui fait qu'on va peut-être éviter de faire une erreur fatale, Stéphane Massard.
Oui, le code, maintenant, ce n'est pas le code, le fait de respecter la loi à fond qui vous mettra en sécurité sur la route. Oui. C'est le fait de comprendre les autres, de vivre ensemble, et notamment en ville.
D'anticiper voilà. La réaction des autres sur la route.
Et les gens se referment, ne comprennent pas les autres. Combien de fois vous voyez des piétons qui regardent leur téléphone parce que le feu piéton est vert? Bah oui, mais on sait très bien qu'il y a des gens qui brûlent le feu rouge. Donc voilà, c'est un effort de tout le monde, c'est faire attention à l'autre, tout simplement. Ouais, savoir conduire, c'est ce que disait une association avant, c'est savoir conduire, c'est savoir se conduire, nous, avec les autres, ne pas vivre pour nous, dans notre petit cercle.
On va reprendre cette formule, effectivement, hein, pour lancer l'appel au témoignage. Savoir conduire, c'est savoir se conduire avec les autres. On attend vos réactions, les voisins et les voisines, au 33 7 64 45 51 41, parce qu'on parle bien de l'apprentissage de la conduite aujourd'hui. C'est pas un examen comme un autre, parce qu'il en va ensuite de votre vie, de votre survie, une fois que vous conduirez un véhicule. Julien Bunga, vous estimez aujourd'hui au Cameroun que l'insécurité routière est directement lié au manque d'apprentissage de la conduite?
Oui, le manque d'apprentissage, la méconnaissance, mais aussi la négligence. J'ai les statistiques hein, officielles du ministère des Transports. On a 35% des accidents qui sont imputables à l'excès de vitesse, 17% à l'état du véhicule, 10% à la conduite en état d'ébriété, 10% à la non-maîtrise du volant, 7% au mauvais dépassement. Si on fait déjà la somme de ces causes-là, on a plus de 50% qui sont directement imputés au comportement de l'usager. C'est énorme. C'est énorme. Alors, nous, on essaie de voir le verre à moitié plein. Ces statistiques nous permettent également de se dire, voilà, nous avons quasiment 50% de possibilités d'inverser la tendance avec de la sensibilisation de proximité des usagers pour qu'ils changent leur comportement. On n'exonère pas l'état de la route, on n'exonère pas l'état des infrastructures. Mmh. Mais en premier lieu, et je vais aller dans le même sens que M. Stéphane tout à l'heure, c'est vraiment la notion du vivre ensemble qui intervient. Mmh. Je prends un exemple simple. Hein. Lorsqu'on ne peut pas appliquer bêtement et méchamment le code de la route, imaginez, j'ai la priorité, hein, je suis dans un axe prioritaire, mais c'est bouché devant moi. Eh ben, qu'est-ce qui m'empêche de ralentir et de laisser passer ceux qui viennent à droite ou à gauche pour éviter le congestionnement? C'est ce qu'on appelle la courtoisie, le respect aussi, pour essayer de limiter les encombrements dans la ville. Mais vous verrez, notamment dans le pays d'où je viens, le Cameroun, parce qu'on a la priorité, parce qu'on est vraiment prioritaire, on est capable de froisser le véhicule de l'autre alors qu'on pouvait s'arrêter, le laisser passer pour éviter un surencombrement. C'est cette notion également que nous essayons de transmettre aux usagers, au-delà du civisme routier, c'est des questions de civisme dans la société auxquelles on fait appel en fait.
Mais vous avez le sentiment que cette notion de civisme n'est pas suffisamment présente dans les cours d'apprentissage de la conduite, l'obtention, je le rappelle, du permis pourtant très réglementé au Cameroun?
Alors, elle est censée être réglementée, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Il faut vraiment se déplacer sur place pour voir dans quelles conditions les enfants, les personnes passent le permis. Parfois, elles ne le passent carrément pas. Hein. Ça fait appel à tous ces problèmes de corruption, de monnayage du permis de conduire. Et quand vous regardez simplement comment les gens se comportent sur la voie publique au Cameroun, dans les grandes villes, c'est juste effrayant. le sentiment de peur, il est réel. Et je peux vous garantir que vous avez des dizaines de milliers de personnes qui renoncent à passer le permis de conduire simplement à la vue du comportement des autres, de ceux qui sont censés le maîtriser sur la voie publique. C'est assez effrayant. Donc, il faudrait, à un autre sens, en tout cas au point de vue associatif, insister fortement sur la formation, hein, le passage du permis de conduire, le réformer, former les formateurs, les procédures d'accréditation des auto-écoles, etc., etc., les enquêtes, pour qu'on soit sûr qu'à la sortie d'une auto-école, qu'on ait réellement mérité son permis de conduire. C'est extrêmement important. Il n'y a pas que la sanction, c'est aussi important, mais nous pensons que l'éducation, la formation, la sensibilisation doivent primer avant la répression, qui est aussi importante, mais qui doit venir en second lieu.
La formation des professeurs d'auto-école, des moniteurs de conduite, évidemment, on va en reparler avec vous, Stéphane Massard. Qu'est-ce qui fait un bon moniteur d'auto-école? Vous nous appelez, les voisins et les voisines, vos témoignages nous intéressent. On parlera aussi des dérives, de la corruption, quelles conséquences sur la sécurité routière. On vous donne la parole juste après la Sud-Africaine Makhadzi, extrait de son album African Queen. Milliards de voisins, on est en direct sur RFI. Nous parlons du permis de conduire. Comment apprendre à conduire, à bien apprendre à conduire? Il en va de votre sécurité, de celle des autres sur la route. Et bien sûr, vos témoignages nous intéressent. Vous nous appelez sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Surtout, appelez-nous tout de suite pour participer à l'émission. Je le disais, il faut parler bien sûr des dérives, de la corruption, quelles conséquences sur la sécurité routière. On vous donne la parole. Écoutez d'abord peut-être cette question. J'ai une question d'un auditeur, d'un voisin qui est à Nouakchott. On l'écoute, Khalifa.
L'Africain ou l'Européen qui détient un permis africain et qui vit en France, comment il peut faire pour changer ce permis africain en permis français?
Alors ça, c'est une question évidemment qui revient souvent. Stéphane Massard, qu'est-ce qu'on peut répondre à Khalifa?
On a abordé un peu le sujet tout à l'heure, donc tout dépend. Est-ce qu'il y a une équivalence entre le pays d'origine et le pays européen? Et ensuite, attention au délai, hein. Je vous rappelle, au bout d'un an, ça ne marche plus. Dès que la personne a le titre de séjour, c'est un an et après on recommence tout. Donc il faut tout de suite aller voir. Et là, bah, ça dépend des auto-écoles. Il y a des auto-écoles qui vous disent qu'il faut le repasser parce qu'il manque de clients, alors qu'en fait, c'est pas la peine. Il y a beaucoup de forums là-dessus sur Internet et on trouve les équivalences. On peut appeler la préfecture, tout simplement, le service auto-école.
Exactement, ou tout simplement sur les sites Internet de l'État français. Donc, c'est au cas par cas, en fonction des pays. Et évidemment, plus simple si on est un ressortissant de l'Union européenne, Stéphane Massard.
Le permis est européen. Vous ne passez pas un permis français, vous passez un permis européen. Donc le permis de n'importe quel pays en Union européenne est valable, sauf en Angleterre, bien sûr.
Qui est sorti de l'Union européenne. Merci. Stéphane Massard, je le rappelle, vous êtes professeur indépendant d'auto-école. Julien Danombunga, qui êtes fondateur et président de l'association CISAL, une ONG de prévention routière au Cameroun. Vous-même, vous avez repassé le permis en France ou comment ça s'est passé pour vous?
Tout à fait. Donc, lorsque j'étais étudiant, je conduisais à Lyon avec mon permis camerounais. Mais une fois que j'ai basculé du statut étudiant au statut de résident avec un titre de séjour plus long, il a fallu repasser le permis de conduire, ce que j'ai fait, ce qui n'a pas été facile d'ailleurs, parce que le code de la route, je l'ai repassé plusieurs fois, l'examen du code. Mais effectivement, j'ai dû repasser le permis français avec lequel je conduis depuis lors.
Oui, tous les conducteurs vous disent aujourd'hui que s'ils devaient repasser le code de la route, ça serait sûrement un peu compliqué. D'abord parce que Oui, et Stéphane Massard, vous le confirmez aussi. D'abord, il évolue un peu.
Bien sûr.
Et certains conducteurs aujourd'hui, quand ils regardent ce que préparent leurs enfants pour le code, disent « Oh là là, mais moi, je serais incapable de l'avoir ».
Il y a de ça, déjà. Alors qu'avant, il y avait une formation. Mais c'est vrai que depuis peu, il y a beaucoup d'évolutions. Et des évolutions qui changent les choses. Ce qui veut dire que si vous avez passé votre permis comme moi dans les années 80, eh ben, c'est plus tout à fait le même code. Par exemple, maintenant, on a le droit de franchir une bande blanche pour dépasser un deux roues. Chose qui était strictement interdite.
Ah oui, bah voyez, vous me la prenez.
Donc sur la route, vous avez des fois des anciens devant vous, ils veulent pas doubler le vélo parce qu'ils veulent bien respecter la loi, alors que justement la loi demande maintenant de passer. Mais ce serait bien de ne pas trop changer les choses trop vite, mais on est maintenant avec des gouvernements qui veulent tout révolutionner.
D'accord, on a compris le message d'un professeur indépendant d'auto-école, le petit coup de gueule plutôt. Un message d'Ousmane qui est à Dakar, formateur en conduite auto-école et engin lourd dans un organisme qui est financé d'ailleurs par l'Agence française de développement et le gouvernement sénégalais avec un statut un peu particulier, nous a-t-il dit au Standard. Il nous dit les gens ont leur permis, ils viennent renforcer leur capacité parce que les entreprises veulent des chauffeurs qui conduisent en toute sécurité et ils forment aussi des conducteurs novices quand ils sont prêts. Ils vont passer leur permis au service des mines, le coût est de 156 euros. Je crois que c'est effectivement le coût classique au Sénégal. Vous avez, vous aussi, Stéphane Massard, maintenant de vraies demandes des entreprises qui veulent davantage sécuriser les trajets de leurs salariés. Je pense notamment à des métiers où on a des salariés qui sont souvent sur la route.
Tout à fait, tout à fait. Bon, il y a surtout l'éco-conduite qui a grand succès. C'est un peu à la mode en ce moment.
Pour consommer moins de carburant.
De la sécurité. Moins de carburant, mais je dirais tout simplement moins de stress. Vous avez beaucoup de professionnels qui vivent dans un stress hallucinant, à commencer par mon métier. Ben, moi, quand je fais mon métier, je n'ai pas ce stress, qui se ressent aussi auprès des élèves. Si le moniteur est stressé et qu'il a peur, c'est sûr que l'élève, ça va être un peu plus difficile pour lui de se détendre.
Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Khalidou est en ligne avec nous. Près de Kaolack au Sénégal. Bonjour Khalidou.
Oui, bonjour.
Khalidou, vous avez 29 ans, vous avez eu votre permis l'année dernière.
Exactement, ouais.
Mais alors, permis poids lourd?
Oui, permis poids lourd, ouais.
Et vous aviez déjà votre permis pour véhicule léger, pour voiture?
J'avais déjà mon pour le T, le A d'abord, pour les voitures à deux roues. Les motos d'adolescence. Après, j'ai passé les poids légers. J'ai réussi. Après aussi, j'ai passé le poids lourd.
Et comment ça s'est passé alors pour vous? Bonne expérience, Khalidou?
Bon, je peux dire oui. Alhamdoulilah, parce que ça s'est bien passé. Parce que, bon, J'étais à Richard Toll, c'est là-bas où j'ai fait à Saint-Louis.
Ah, d'accord, là-bas, dans le nord du Sénégal, à Richard Toll. Et vous avez eu de bons profs, vous en gardez un bon souvenir, ça n'a pas été trop difficile?
Quand j'avais un professeur qui avait une très bonne réputation là-bas, les gens disaient qu'il le sait bien faire. Bon, il le faisait très bien parce qu'il avait tant d'élèves qui ont réussi jusqu'à ce qu'eux-mêmes sont parvenus à faire leur propre école. Et c'est par là où j'ai passé, une de ces élèves. Oui. Ma fille et m'a enseigné vraiment tout ce que je sais aujourd'hui.
Mais quand vous avez commencé à prendre vos cours, vous avez dit au standard qu'en fait vous saviez déjà conduire, vous aviez appris à conduire avec votre frère dans la forêt.
Exactement, parce que lui il était un agent de forêt.
Ah.
On partait ensemble à chaque fois, en patrouille ou bien autre.
D'accord.
Bon. À chaque fois il me donnait à conduire.
Ah oui, dans quelle forêt, sans indiscrétion, Kalidou?
Bon, dans la commune de Mbane et autrement, c'est dans le nord en tout cas, dans le nord du Sénégal, ouais.
D'accord. Bon, donc il faut faire attention alors si on est dans ces forêts-là, on risque de croiser un conducteur apprenti, hein. Merci Kalidou.
Ah, ouais, ça, c'est sûr.
Bravo en tout cas.
Quoi, merci beaucoup.
Bravo pour le permis.
Allez,
poids lourd, hein, pas simple. Vous continuez de nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Daisy est en ligne avec nous de Brazzaville. Bonjour Daisy.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un conducteur plutôt en colère par rapport au permis de conduire?
Oui, par rapport au permis de conduire. Chez nous, au Congo-Brazzaville, depuis 2000 à nos jours, les permis s'achètent maintenant. Ça ne se passe pas comme avant les années 2000. Là, vraiment, ça désintéresse les gens. Il n'y a pas trop de chauffeurs bien formés.
Qu'est-ce que vous voulez dire par le permis s'achète, Daisy?
Oui, mais parce qu'il y a un réseau du ministère des Affaires terrestres. Il y a des gens qui ne savent pas conduire chez nous au Congo-Brazzaville, mais qui ont des permis à trois cachés. Comment ils ont l'octroyé?
Et pour vous, ça vous pose un problème sur la route?
Oui, ça cause des problèmes sur la route, parce que la majorité des gens ont du mal à connaître le code de la route. Avec moins les infrastructures qui sont bâties dans les années 2014 à nos jours, il y a des routes quand même qui ont fait de longues distances. Il y a plus des accidents, les gens ne savent pas comment stationner, comment faire des dépassements dans les grandes artères. Ça cause un peu d'insécurité, il y a un grand danger au niveau des routes quand il y a circulation à Brazzaville.
Restez en ligne avec nous, Daisy, justement, on a un professeur d'auto-école à Brazzaville avec nous. Bonjour Fabi Jaglar.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez entendu le témoignage de Daisy qui dit que les formateurs aussi ne sont pas de bonne qualité.
Mais bien sûr, c'est la problématique principale des auto-écoles en Afrique subsaharienne, en réalité. Voyez-vous, mais le problème fondamental, il n'est pas celui-là. Les auto-écoles, tant bien que mal, essaient de mieux former les apprentis. Mais la problématique, c'est comme disait Stéphane tout à l'heure, c'est l'incivisme, hein, ce qu'on appelle en termes professionnels le manque de courtoisie au volant. Voyez-vous, les apprenants, ils apprennent, mais une fois qu'ils ont fini leur formation, ils se mettent en route. Mais non, sur la route, il faut respecter le code de la route, c'est-à-dire que respecter l'autre, c'est se respecter soi-même. Tout simplement, la problématique est celle-là, la réalité.
Concernant la corruption pour obtenir son permis de conduire, qu'est-ce que vous voyez, vous, Fabi Jaglar, en tant que professeur?
La corruption, elle est partout. Hein. Elle est partout. Mais je ne pense pas que ça soit le principal fléau sur le problème de la conduite au Congo-Brazzaville. Bien sûr que c'est un fait, personne ne peut le nier, comme partout il y a la corruption. Mais est-ce que cela a un impact forcément sur l'apprentissage des apprenants? Je ne pense pas réellement. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans les auto-écoles, qui apprennent en bonnet du forme, qui se mettent en route, mais sur la route, ils croisent des gens qui ne respectent pas le code. En face, parfois c'est un élève qui est passé par l'auto-école, mais il n'arrive pas à respecter le code de la route. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est parce qu'il avait eu le permis par
la voie détournée ou simplement c'est le manque de respect du code de la route. Parce que vous voyez des gens qui conduisent depuis des années, bien sûr, il est au volant depuis 10 ans, 15 ans, mais à un certain moment, il ne respecte pas le code de la route. Vous le voyez, ça saute aux yeux. C'est un vrai problème.
Alors justement, vous posez la question, quel est le lien entre l'incivisme sur la route et une formation qui laisse à désirer, Julien Mbunga? Si on a été présenté au permis en dépit du fait que le formateur sait très bien que le candidat n'a pas encore le niveau, n'a pas encore les réflexes, n'a pas encore la capacité à bien respecter le code de la sécurité routière, si ce candidat-là est présenté au permis et qu'il obtient le permis un peu par l'opération du Saint-Esprit parfois, est-ce qu'on peut établir un lien avec l'incivisme ou pas forcément ?
C'est aussi une forme d'incivisme que d'envoyer des candidats qui ne sont pas prêts pour passer le permis de conduire. Je veux dire, on n'imagine pas des lycées ou des collèges envoyer des élèves dans les universités avec un bac, qui n'est pas le niveau du bac. Enfin, c'est lié. En fait, ça fait appel à la notion, selon nous, de la responsabilité individuelle, finalement. Mmh. On est dans des sociétés où personne ne se sent responsable, en réalité, de rien. Chacun fait ce qu'il veut pour gagner sa croûte, et qu'advienne que pourra. C'est ça qu'il faut stopper. Et l'État a sa part à jouer là-dedans aussi. Les pouvoirs publics ont leur part à jouer. Notamment en ce qui concerne les auto-écoles, puisque nous parlons du permis de conduire. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour s'assurer qu'un établissement qui délivre les permis de conduire a réellement les compétences en termes de ressources humaines, en termes de matériel, en termes de moyens, pour garantir la qualité à la sortie de l'auto-école? C'est aussi ça le rôle de l'autorité.
Stéphane Massard, vous êtes professeur d'auto-école en France. Est-ce qu'il existe parfois une connivence entre les auto-écoles et les centres d'examen ?
À ma connaissance, ça n'existe plus. Ça a existé très très longtemps, ça n'existe plus. Maintenant, les ventes de permis, malheureusement, il y en a aussi en France, mais ça passe plutôt par Internet. D'ailleurs, j'en profite pour m'exprimer à ce sujet, parce que pour les gens qui achètent le permis, moi je leur dis qu'ils achètent la mort, tout simplement. Et à la limite, la leur, ça me dérange pas trop. C'est plutôt la mort des autres qui n'ont rien fait. Et c'est souvent celui qui n'a rien fait qui trinque. Hein. Celui qui respecte les lois, qui respecte le code. Donc on retombe sur des problèmes de comportement, de civisme. C'est tout à fait ce que le collègue vient de dire juste avant.
Ouais. Il arrive que l'échec à l'examen aboutisse à un conflit entre le candidat et l'examinateur. On va dire que l'ambiance chauffe très 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 haut.
Oui.
Est-ce alors qu'il peut y avoir des menaces ?
Jamais vu. Moi, en 35 ans, un seul de mes élèves a un jour osé menacer un inspecteur. L'inspecteur n'a pas eu à réagir. En plus, c'était sa première semaine, la pauvre. Je me souviens, c'était à Créteil.
L'inspectrice, alors.
Une dame, une inspectrice toute petite. Elle en a été traumatisée parce qu'elle n'était pas du tout habituée à ce département qui est quand même assez spécial. Il ne représente pas la France en général. Vous voyez, c'est les cités, c'est mes quartiers d'où je viens. Donc ce n'est pas le même langage, ce n'est pas les mêmes habitudes, c'est très très stressant.
Alors vous avez remis le candidat à sa place, c'est ça, pour protéger l'examinatrice?
On peut le dire comme ça, mais ça a été fait physiquement. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi des inspecteurs ont pu être agressés, surtout que le Val-de-Marne a eu le record des inspecteurs agressés en France. Mais ça s'est calmé. Il faut dire que l'inspecteur ne donne plus la réponse immédiatement maintenant.
Ah, pour se protéger.
C'est aussi un problème. C'est antipédagogique.
Eh oui, forcément. Parce que du coup, il ne peut pas expliquer pourquoi le candidat a échoué au permis. Si le candidat attend de recevoir sa réponse par Internet ou par la poste.
Et le moniteur ne peut pas donner son aval ou dire qu'il n'est pas d'accord. Ça existait aussi. Maintenant, on a aussi des moniteurs qui ont des mauvais comportements et qui disent toujours que c'est la faute de l'inspecteur. Mais ça, quand vous faites mal votre métier, c'est toujours la faute de l'autre, c'est évident. Moi, j'ai jamais vu en France de mauvais comportements d'inspecteur ou sinon, c'est monté en préfecture, j'ai porté plainte contre lui. Ça peut arriver.
Je voudrais lire en conclusion le témoignage de Merveille, qui est conductrice à Yaoundé au Cameroun et qui nous dit, au-delà de l'éducation dont vous parliez, Julien Mbunga, la méthode répressive aussi a sa place dans les cours de conduite et elle semble le déplorer. Julien Mbunga, un dernier mot.
Je suis totalement d'accord à ce niveau et là aussi la corruption a son lot. Il faudrait vraiment que la force publique, une fois qu'on a assuré la formation, une fois qu'on a sensibilisé, il faut contrôler, il faut exercer la répression, condamner les récalcitrants, les contrevenants et surtout s'assurer de l'exécution des condamnations. Parce qu'on a beaucoup de soucis, et là aussi c'est de l'incivisme, quand on voit qu'un contrevenant a été arrêté mais qu'il est relâché, quelqu'un qui a bu, qui a pris le volant, qui a tué, et le lendemain vous le revoyez au même volant de son même véhicule et qui narque tout le monde, ce n'est pas de nature à encourager les autres à respecter les mêmes règles. Donc ça aussi c'est un gros problème. Et si je devais conclure, ce serait de dire, pour vaincre ce sentiment de peur, pour se donner une chance d'inverser la tendance de l'incivisme sur la route au Cameroun notamment, et en Afrique subsaharienne en général, il faudrait commencer par l'école, l'apprentissage dès l'école, le primaire, avec les rudiments du code de la route, pour faciliter à la fin du primaire, par exemple, l'obtention du passeport piéton, et à la fin du secondaire, avec le bac, l'obtention, par exemple, pourquoi pas, du code de la route, subventionné par l'État. Ça préparerait déjà les esprits, ça préparerait déjà les jeunes Camerounais à aborder la question du permis de conduire comme véritablement un acte citoyen, et pas comme une contrainte, pas comme une obligation en soi.
Merci à vous tous, ça sera le mot de la fin. Merci à Fabi Jaglar qui est professeur d'auto-école à Brazzaville. Merci à vous, Julien Dano Bunga, pour l'association CISAL. Et merci à vous, Stéphane Massard, professeur indépendant d'auto-école en France. Dans quelques instants, dernière séquence de notre émission, des conseils pour aider les parents avec leurs enfants, la chronique du psychologue Ibrahima Giroud. Restez avec nous, il arrive juste après Ja Preza du Zimbabwe.
Zagashunga, nyumerero inobaya, moyo osorora, ushamuona, pose panoshika, anoti magadine musa, moyo osorora, ushamuona. Achichora musura, moyo osorora, ushamuona. Agazenga chirongo, moyo osorora. Uyo agazunga chuma, ndongoti nendoro chena.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
D'ici et d'ailleurs, c'est la chronique du psychologue Ibrahima Giroud à Dakar. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychologue et pourtant dans cette chronique, vous souhaitez prendre vos distances avec les diagnostics des psychologues et autres professions qui s'occupent des enfants. On dirait que c'est l'hôpital qui se moque de la charité.
Non, pas tout à fait, Emmanuel. Disons que j'ai constaté que les temps sont un peu tragicomiques et les spécialistes sont quasiment obligés de nous dire que nous sommes malades afin que nous nous sentions mieux. On peut observer un certain désengagement en fait, du système éducatif en relation avec la multiplication de ces nouveaux troubles qui sont liés aux apprentissages des enfants à l'école.
Vous parlez d'un désengagement du système éducatif, mais comment ces nouveaux troubles cachent ce que vous appelez ce désengagement de l'école? Expliquez-nous.
Peut-être qu'en fait, Emmanuel, on ne peut pas dire avec exactitude quel est l'œuf et quelle est la poule entre le désengagement du système et l'apparition de ces nouveaux troubles. Mais le fait est que beaucoup de nos enfants sont diagnostiqués avec des troubles super sophistiqués et trop compliqués à comprendre en fait pour le parent. Ces troubles ont le désavantage de déculpabiliser, déresponsabiliser l'école d'une part. Et c'est l'enfant qui est malade, ce n'est pas la faute de l'école. Et vous êtes êtes seul en tant que parent avec votre enfant qui est atteint de, tenez-vous bien, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie. Vous voyez, autant de troubles, troubles de l'attention, troubles des apprentissages, que sais-je encore, Emmanuel, vous voyez, autant de dysfonctionnements sur lesquels vous n'avez aucune connaissance et vous n'avez donc aucun pouvoir a priori en tant que parent. C'est, le monde s'effondre autour de vous.
Oui, ça c'est sûr, pour les parents, c'est pas simple, mais ce sont des troubles qui sont bien réels pour certains enfants. Hein, on est plutôt dans des pays, notamment en Afrique, qui souffrent plutôt d'un manque de spécialistes, d'un manque de diagnostic sur des troubles de l'apprentissage dans des pays comme le vôtre.
Je ne nie pas la réalité de ces troubles, mais ce que je peux dire après 20 ans de coaching des enfants, Emmanuel, c'est que beaucoup de parents sont venus me voir après avoir fait faire un bilan orthophonique souvent à leur enfant à la demande de l'école. Ensuite, ils ont payé cher pour 30 à 40 séances avec l'orthophoniste ou d'autres spécialistes. Hein. Mmh. Et au final, il n'y a eu aucune amélioration dans les résultats scolaires de l'enfant, dans la plupart des cas.
Vous voulez dire que l'enfant a toujours du mal à apprendre? Est-ce que c'est parce que le nombre de séances ne suffisait pas, par exemple?
Ça peut être une hypothèse, mais on pourrait aussi aller plus loin, se demander si la méthode de remédiation était bonne au bout de 30 séances quand même. Et on peut même se demander, Emmanuel, s'il y avait vraiment un trouble. Parce que s'il n'y a pas vraiment de trouble, on serait parti pour soigner quelque chose qui n'existe pas.
Alors, c'est vrai aussi que dans un pays comme la France, il y a souvent un surdiagnostic pour des problèmes d'apprentissage, que ce soit l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage du calcul, et qu'en réalité, il y a à la base plutôt des problèmes aussi de méthode d'enseignement plutôt qu'une dyslexie quelconque. Qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là aux parents qui viennent vous voir et qui sont assez désemparés?
Moi, ce que je propose aux parents qui viennent me voir, c'est de reprendre déjà le bilan. Et tenez-vous bien, Emmanuel, avec des items qui sont parfois plus compliqués que les items avec lesquels l'enfant a été testé. Une méthodologie beaucoup plus rigoureuse, par exemple, là où le spécialiste avait fait juste 15 minutes, moi j'ai fait 3 fois 1 heure de temps, par exemple. Et j'ai trouvé que 100% des diagnostics que les parents m'ont ramenés ne tenaient pas la route. 100% des enfants que l'on m'a amenés parce qu'ils seraient dyslexiques ne l'étaient point. Et à chaque fois, j'ai trouvé plutôt, Emmanuel, une problématique qui était plutôt liée à la confiance en soi.
Donc des enfants qui n'arrivent pas à apprendre parce qu'ils n'ont pas confiance en eux.
Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'il y a de la pression, parce qu'ils se mettent la pression. Ils essaient de lire dans les détails, alors que lire, par exemple, c'est prédire le mot qui vient, ce n'est pas décoder lettre par lettre. Donc c'était beaucoup plus une problématique qui était liée à la confiance en soi que de vraies difficultés mécaniques au niveau de la lecture.
Alors la question de la semaine pour les parents qui nous écoutent, Ibrahima Giraud, va concerner la confiance en soi.
Alors Emmanuel, bien que l'école soit une porte importante, pourquoi vous rendre malade, vous et vos enfants, en difficulté, alors que plusieurs autres portes ouvrent grand sur la vie?
Merci Ibrahima Giraud. Toutes ces chroniques sont à retrouver en podcast. Le titre de cette série, Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci à la prise de son et au studio de RFI à Dakar, Mandinkan, Foulfoulde. Merci à vous.
Merci Emmanuel, au revoir.
Et merci à l'équipe à Paris, Delphine de Dianous qui prépare cette émission, Juliette Brault, David Brocouet. Toutes nos émissions sont à réécouter aussi en podcast. Et demain, 7 milliards de voisins, ne manquez pas notre émission sur les villes secondaires en Afrique. Ni capitale, ni village. Ces villes ont la croissance démographique du continent la plus forte. Alors comment faire face à l'augmentation de la population dans des villes qui sont loin du pouvoir souvent? Comment garantir les services essentiels comme l'éducation, l'emploi, la santé, le logement? Reportage au Kenya, à Kisumu, troisième ville du pays, à l'occasion du sommet AfriCité qui s'est déroulé en mai dernier, justement sur le thème des villes secondaires. À demain, même heure, même endroit, 10h10, temps universel, dans quelques 5 secondes, le journal.